chères cliniciennes et cliniciens, merci d'avoir cliqué sur le podcast Clic Physio. Cette série de 10 balado-diffusions vous permettra de vous plonger tête première dans l'univers de la téléréadaptation avec divers acteurs influents du milieu. Laissez-vous charmer par cette modalité d'intervention novatrice qui nous permet de tisser un service sécuritaire, inclusif et de qualité par l'entremise de la toile du web. À un clic de nos patients, vous découvrirez l'importance de ce juste compromis qu'offre la téléréadaptation. Bienvenue sur le podcast Clic Physio, une initiative étudiante dans le cadre d'un projet de maîtrise en physiothérapie. Aujourd'hui, on s'en va à la rencontre de M. Lionel Hugonnier, physiothérapeute au sein du CIUS de l'Estrichus à l'hôpital Fleurimont, superviseur de stage, professionnel de la santé qui œuvre avec cœur dans le domaine humanitaire, chargé de cours à l'école de réadaptation de l'Université de Sherbrooke. M. Hugonnier vient nous partager son expertise entourant l'utilisation de la téléréadaptation dans son milieu de pratique actuel. Bon épisode à tous! Bonjour Lionel.
Oui, bonjour.
Bonjour. Merci de prendre votre temps aujourd'hui de venir discuter avec nous. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de vous croiser sur leur parcours au niveau professionnel ou même comme patient, est-ce que vous pourriez un peu définir votre rôle à travers l'enceinte puis comment vous utilisez la téléadaptation actuellement?
OK, ben moi, mon nom c'est Lionel, donc je suis physiothérapeute depuis un peu plus de 30 ans. Donc j'ai eu une expertise quand même assez constante dans ma carrière en musculosquelettique, surtout clientèle adulte 18-65 ans. Donc le cheminement a été beaucoup dans le milieu public, au CHU, aussi un peu dans le milieu privé, une quinzaine d'années, avec une expertise un petit peu plus à ce moment-là en thérapie sportive. Et puis, j'ai rajouté au fil de ma carrière d'autres pratiques comme l'enseignement, puis carrière aussi de travailleur humanitaire dans le développement de la réadaptation. Mais actuellement, c'est surtout musculosquelettique pour les 18-65 ans. La raison pour laquelle on a été amené à toucher à la téléréadapte, en fait, on était un petit peu précurseur dans nos idées, bien que ça existait déjà. En 2017-2018, j'ai contacté professeur Michel Tousignan à l'Université de Sherbrooke parce que nous, ici au CHU, on avait dans l'idée d'essayer de faire quelque chose à distance et on s'était aperçu qu'on avait quand même pas mal d'absentéisme l'hiver. Des patients qui ne venaient pas pour différentes raisons, problèmes d'accompagnement, etc., etc. Donc, on voulait un petit peu optimiser notre efficience de travail en limitant les absences puis en essayant de proposer aux patients de se brancher sur la technologie de façon à pouvoir assister à leur séance. Donc, malin, cette idée, elle est partie un petit peu de ce point de vue-là. Et puis, donc, quand on a contacté professeur Tousignan, donc il avait déjà dans l'idée de travailler avec le milieu public avec ce projet-là. Donc, on est parti là, 2018. Le début de la mise en place du projet était un petit peu long. On a commencé le projet en 2019 dans un premier cheminement pour essayer de recruter environ 140 patients dans l'étude et donc de commencer à faire de la téléréadapte. Et puis ensuite, est venue la pandémie en mars 2020. Donc là, c'était vraiment une opportunité de plus pour mettre en place ces services-là, puisque là, tous les services étaient coupés à ce moment-là. Donc, ça nous a bien avantagé parce qu'on connaissait déjà un petit peu le procédé. Donc, ça a facilité quand même la mise en place du service au niveau du CHU ici.
Puis, avec ce projet-là, la clientèle visait, est-ce qu'il y avait certaines pathologies plus particulières avec lesquelles vous vouliez faire les suivis?
Pas vraiment. C'est sûr qu'on a toujours l'impression des fois que clientèle orthopédique classique est plus facile, mais aussi surprenant que ça puisse être, on a eu des cas aussi de douleurs chroniques, là, des lombalgies, dorsalgies qu'on a suivies en douleurs chroniques pour lesquelles on a eu des résultats aussi assez surprenants. Moi, je voyais même le prolongement de cette activité-là dans d'autres services avec mes collègues en pédiatrie. Là, je voyais des fois des gens qui venaient de mégantiques l'hiver avec des enfants, etc. Donc, en fait, c'est un système pour lequel on savait qu'il pourrait être transféré dans bien d'autres clientèles. Mais nous, c'était surtout orthopédique, je dirais, mais avec une panoplie là, de diagnostics de la simple tendinite à la fracture, à la prothèse, chirurgie de genou, chirurgie de hanche, fracture quelconque du genou, etc. Donc, c'était quand même assez varié comme cas clinique.
Puis après avoir mis en place cette technologie-là, de voir que peut-être le taux d'absentéisme, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que les gens ont adhéré à cette technologie-là avec le temps, de la manière que vous l'avez apportée avec eux?
Ben, ça, c'est le défi, en fait, de la réussite de la téléréadaptation, là, d'essayer d'embarquer les gens. La majeure partie des gens qui ne veulent pas embarquer dans ces projets-là, c'est parce que et souvent ils sont pas à l'aise avec la technologie, ou aussi les gens ont des fausses croyances là en mentionnant que ça sera moins efficace parce qu'on va être à distance que si on est en présentiel. Donc la majeure partie du temps c'est relié à ces événements là. L'autre chose aussi, c'est aussi en lien avec des gens qui ont pas de support technique. Donc ça veut dire que quand on n'a pas le support technique informatique puis qu'on a un problème à distance, ben là, c'est moins bon, puis les gens vont lâcher à ce moment-là la télé-réadapte parce que ça ne fonctionne pas.
Pour vous avoir vu en œuvre, en ayant la chance d'assister à une des séances, le fait de pouvoir encadrer les gens, peut-être avec un suivi plus étroit ou plus concret de quelques minutes, des fois pour revoir les exercices ou faire une progression là, par exemple pour quelqu'un qui a une prothèse totale du genou en remplacement, est-ce que vous avez vu ou remarqué peut-être une tendance des gens à peut-être adhérer plus facilement au traitement parce qu'ils sont dans leur quotidien à eux, vu que vous voyez un peu quels outils, quels éléments ils ont à leur disposition, par exemple une chaise, des balles, un mur pour qu'ils soient en sécurité. Est-ce que vous avez vu peut-être que c'était plus facile de pouvoir, une fois qu'on a un regard sur leur milieu, de leur faire implémenter facilement cette pratique-là?
Moi, j'ai l'impression que ce qui est déterminant dans l'approche, c'est peut-être pas en tant en lien avec l'environnement, mais c'est en lien avec la sensation que le patient il a d'être pris en charge. Quand le patient il a la sensation d'être pris en charge, qu'il vienne en présentiel ou qu'il soit à distance, à mon avis, ça change pratiquement rien sur la qualité du service qu'il va recevoir. Si en plus le lien thérapeutique n'est pas affecté avec le professionnel et le patient, on vient de fixer là une recette vraiment gagnante. À mon sens, c'est les éléments que moi j'observe le plus. Le fait que le patient il soit vu dans son environnement, j'ai pas vu tant de différence parce que souvent les gens ont besoin aussi beaucoup d'éducation pour utiliser la télé-réadapt. Donc comment placer son appareil électronique pour être bien vu, pour augmenter la vision, l'angle de vue que le thérapeute doit avoir, parce que souvent des fois l'erreur que les patients font, c'est qu'ils prennent leur téléphone ou leur tablette puis ils font en fait un FaceTime avec le professionnel. Ils font juste nous parler puis on a leur visage en gros dans l'écran et on voit pas en fait ce qu'on veut voir. Donc faut les éduquer beaucoup. Les patients doivent savoir comment se comporter, comment utiliser leur appareil à la maison, puis ça dans leur milieu. Les gens, ça varie beaucoup. Hein. Il y a des gens qui sont assis dans leur salon, des gens qui disent « Ok, je vais m'allonger dans mon lit, dans la chambre à coucher, je vais me mettre par terre. » Donc, c'est pas tant un élément de problème, c'est vraiment de bien utiliser la technologie de façon à ce qu'on puisse, nous, obtenir les bonnes informations.
Pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce domaine-là, peut-être davantage en musculo-squelettique, ce serait quoi les conseils peut-être de base pour éclairer les cliniciens qui aimeraient avoir peut-être plusieurs ressources ou peut-être conseils pour faciliter cette prise en charge-là, pour avoir le ressenti que vous semblez mettre de l'avant beaucoup avec les patients pour cette prise en charge-là à distance?
Ben déjà, au niveau professionnel, les professionnels, c'est les mêmes groupes sociaux comportementaux que nos patients. Hein. Donc, il faut déjà que les professionnels n'aient pas des fausses croyances en lien à ce que la téléréadaptation ne sera pas bonne parce qu'on est à distance. Donc, il faut déjà que le professionnel, lui, ait franchi cette étape-là et qu'il soit à l'aise avec ce système-là aussi. Il faut aussi que le professionnel fasse une croix un petit peu sur différents tests et bilans qu'il faisait en présentiel puis qu'il ne pourra pas faire à distance. À distance, on ne pourra pas palper, on ne pourra pas toucher si c'est chaud ou froid, si on pourra voir si c'est enflé, mais il y a des informations qu'on ne pourra pas avoir, mais qu'on peut aller chercher autrement. Mais l'élément qui reste essentiel, je crois, c'est toute la maîtrise et le support de la technologie. Donc, c'est vraiment un élément important parce que la majeure partie du temps, les gens qui ne veulent pas embarquer là-dedans comme professionnels, c'est la même chose que les patients. C'est des gens qui ne sont pas à l'aise avec la technologie. Donc, quand il y a un problème technique, qu'est-ce que je fais? Il suffit qu'on fasse une ou deux rencontres, puis ça ne marche pas. Puis les gens vont vivre avec un événement négatif et ça va faire en sorte qu'ils vont être moins à l'aise à ce moment-là pour poursuivre.
Puis, pour réussir à peut-être briser cette barrière-là de contrôle par rapport à la technologie, y a-t-il des choses que vous avez faites de votre côté pour vous aider à faciliter la maîtrise d'un logiciel ou peut-être des ressources qui ont été mises à votre disposition que vous avez trouvées avec le temps?
Nous, quand on a fait l'étude avec professeur Michel Tousignan, le concept était au top dans le sens où on avait une équipe informatique qui nous servait de support donc avec l'université et qui a permis justement de gérer toute la complexité de l'appropriation de la technologie. Et ça a été vraiment magnifique en fait. Ensuite, quand on s'est retrouvé seul avec nos patients, la pandémie, donc là, il fallait vite, vite mettre en place des applications qui permettaient de faire ça. Donc, on a commencé par Zoom. Et assez vite, on a eu des informations comme quoi l'aspect de sécurité était déficient. Là. Ensuite, l'hôpital nous a suggéré d'utiliser Teams. Et depuis qu'on est avec Teams, en fait, c'est vrai que c'est assez facilitant. Donc, il n'y a pas autant de problématiques techniques, mis à part l'utilisation des fonctionnalités, là, des appareils que les gens ont, eux, à la maison. Mais l'erreur aussi, peut-être, qu'on fait en tant que professionnel, c'est, moi, je vois la télé comme un outil, comme quelque chose qu'on va utiliser en fonction de notre évaluation. Donc, c'est pas tout le monde qui va pouvoir utiliser ça. Et c'est de bien cibler, nous, la clientèle qui va être en réussite avec cette activité-là, plutôt que de le proposer un petit peu à tout le monde, puis se rendre compte que finalement, il y a des patients qui adhèrent pas. Donc, les erreurs aussi peuvent venir des professionnels dans le sens où on a mal ciblé la clientèle pour laquelle on va proposer cet outil-là, qui fait en sorte que ça n'a pas fonctionné.
Ah, définitivement que tisser un profil comme n'importe quelle modalité qu'on voudrait utiliser en clinique, je trouve que c'est un bon point que vous amenez ici parce que c'est vrai qu'on ne va pas tout faire n'importe quelle approche ou une approche dite globale qui va fonctionner pour n'importe quel canevas d'évaluation, mais de prendre le temps de tisser un profil clinique, voir l'adhérence, le côté aussi d'adaptabilité avec ça, puis de voir comment la personne est prête à s'engager. Mais je trouve que c'est une belle façon que vous donnez aux cliniciens, je pense, de voir un profil d'utilisation de la téléadaptation parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fonctionne. Puis en termes d'études, on sait que l'intervention, que ce soit à distance ou en réel, tout dépendamment des manipulations, bien évidemment, que l'efficacité est semblable ou du moins très respectable par rapport aux résultats qu'on peut avoir. Donc de là, de l'utiliser de manière efficiente, savoir quoi faire, bien c'est là que le chapeau clinicien que les gens vont développer avec le temps va être mis de l'avant. Puis je trouve que c'est une belle façon de l'exposer.
Oui, parce que moi, j'ai fait des erreurs aussi. Tu sais, l'erreur que je peux faire, c'est des fois, aussitôt que tu vois une clientèle relativement jeune, moi, je prends pour acquis que les jeunes sont hyper branchés puis sont technologiques. Et tu dis, OK, as-tu un téléphone? Est-ce que tu veux faire de la télé? Les jeunes me disent oui, OK, c'est bon. Puis finalement, on essaie de se brancher, ça ne marche pas. Puis tu appelles le patient après, tu dis, ben là, qu'est-ce qui se passe? Puis tu te rends compte que finalement, le patient n'y est pas à l'aise avec la technologie. Donc ça, c'est une erreur, en fait, de jugement un petit peu au début. Puis l'opposé arrive aussi complètement. J'ai eu des madames de 65-70 ans qui étaient hyper techno, hyper branchées, avec qui je faisais de la télé-réadapte, puis j'avais jamais de problème de connexion. Fait que là, je pourrais me dire, ah, c'est une vieille personne, probablement qu'elle ne va pas savoir servir des trucs. Puis finalement, elle est aussi habile qu'un jeune de 20 ans qui est né avec ça. Donc, c'est vraiment de cibler comme il faut cette clientèle-là de façon à être efficace. Moi, je fais des demi-journées de téléréadaptation une fois par semaine dans mon travail. Je suis en téléréadaptation. J'ai des clients là, aux demi-heures. Là, dans le secteur public, des fois, on a toujours cette idée aussi péjorative que ça prend plus de temps pour être pris en charge ou quoi que ce soit, que les séances sont plus longues. Moi, j'ai des patients toutes les demi-heures. Je peux voir 5-6 patients dans mon après-midi en 3 heures. Puis c'est très, très efficace. C'est très efficient là, comme travail. Les patients sont super contents. Et puis c'est bien, c'est des patients qui sont habiles, que tout fonctionne bien, ça s'enchaîne bien. J'envoie mes invitations sur Teams avant. J'ai tous mes rendez-vous qui défilent à la queue leu-leu sur mon calendrier. Comme si j'étais en clinique et que les patients venaient aux demi-heures, c'est la même chose, sauf que je suis devant mon ordi puis les patients sont chez eux. Là.
Mais c'est sûr et certain que toutes ces stratégies-là, je suis vraiment certain que certains cliniciens vont les attraper au vol puis vouloir les mettre de l'avant dans leur pratique. Pour terminer, j'aimerais ça vous lancer peut-être la question en l'air de voir la possibilité, sachant que vous êtes dans un milieu hospitalier, de peut-être faire un pont ou un parallèle avec les suivis post-op. Est-ce que vous voyez que le côté médical est prêt à vouloir faire ces suivis-là ou de faciliter peut-être cette transition-là pour peut-être avoir un meilleur volume ou du moins une prise en charge plus précoce?
Bien, ça aussi, c'est la même chose. Qu'on parlait tout à l'heure de groupes socio-comportementaux, les médecins, c'est un petit peu là pareil. Il y a des médecins qui n'ont aucun problème avec ça. Il y a des médecins qui sont encore hésitants et de croire que la télé, ce n'est pas efficace. Un élément qui va être majeur aussi pour rassurer les gens, c'est de dire que la télé, ce n'est pas une finalité. C'est qu'on l'utilise plus comme un outil hybride. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux décider de mettre en marche un plan de traitement avec un patient, de le voir une fois par semaine. Et si je juge que dans mon intervention, j'ai la nécessité de le voir en présentiel, ben l'un n'empêche pas l'autre. Puis ça aussi, je pense que c'est un élément important à mentionner quand on utilise cet outil-là, parce que les gens pensent qu'une fois qu'ils sont en télé, ils vont être en télé tout le temps, alors que ce n'est pas le cas. Ça m'arrive régulièrement. Des fois, j'ai des patients qui me disent aussi, « Ah, ben ça fait 2-3 fois qu'on se voit à distance, est-ce qu'on se voit en présence? » Moi, ça ne me dérange pas. Je dis, si les patients veulent venir, ils viennent. Ça fait plaisir à tout le monde. Mais on a encore effectivement des médecins qui sont réticents, parce qu'ils pensent vraiment que, notamment sur des prothèses de genoux, par exemple, on sait que les études démontrent qu'en suivi après poste un an, les résultats sont les mêmes, qu'ils soient vus en présentiel ou en télé. Mais il y a des médecins qui pensent que c'est plus efficace en présentiel, ça c'est sûr.
Donc, en lançant ce courant de pensée-là de changement ou peut-être rassurer les différentes professions qui travaillent avec nous, je trouve que c'est un beau message qu'on peut lancer aux auditeurs de continuer d'être des acteurs de changement puis de réussir en étant honnête avec ses patients aussi. Des fois, quand on commence quelque chose, bien, on dit qu'on, oui, on est novice, mais on va les accompagner puis grandir avec eux. Puis je trouve le fait de tisser, comme vous avez mentionné, plutôt un portrait clinique pour l'adapter puis de cibler les bons patients. Je trouve que c'est un bon message que vous avez laissé aujourd'hui. Donc, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé. Puis, je vous laisse le mot de la fin, mon cher Lionel.
Ouais, merci de m'avoir sollicité pour le projet. Moi, j'encourage les gens à l'essayer parce que c'est vraiment un outil, je pense, qui va se développer encore plus dans les prochaines années. Les patients, quand ça se fait bien, les patients sont contents. Et puis, les professionnels aussi sont contents. C'est un outil qui, même si on est loin du patient, il nous rapproche de lui pareil. L'image vidéo, je pense que c'est un gain essentiel dans le lien qu'on peut avoir en télé. Donc, moi, j'invite les gens à au moins l'essayer là, une fois dans leur carrière.
Un gros merci, M. Gonnier. Donc, je vous souhaite une bonne continuité avec votre pratique, puis j'espère avoir peut-être porté au-delà de votre message pour influencer quelques cliniciens à vouloir continuer ou de même découvrir cette technologie-là.
OK, merci.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode réalisé par Click Physio, un podcast où vous faites la rencontre de la téléréadaptation par l'entremise de divers acteurs du milieu de la physiothérapie. À un clic de vos patients, apprenez à apprécier la juste valeur de la téléréadaptation. Bref, si vous avez aimé le tout, n'hésitez pas à partager notre contenu sur vos diverses plateformes et de commenter, aimer nos différentes publications. Nous vous invitons également à vous joindre gratuitement à notre forum de discussion membre sur notre site web ClickPhysio pour en apprendre davantage sur la téléréadaptation. Au plaisir de vous compter parmi nous.